Your conference is being recorded.
François de Saint-Pierre, la parole est à vous.
Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez, bienvenue à ce call. On a voulu organiser un contact un peu avant le break estival pour faire un point, non pas sur l'actualité économique et l'épidémie comme on l'a fait ces derniers mois et la dernière fois il y a un mois justement, mais peut-être pour essayer d'éclairer sans pour autant tirer nécessairement de scénarios bien précis, mais d'éclairer les problématiques qu'on a identifiées dans les questions qui nous sont posées, qui sont effectivement les problématiques de déficit, de dette et de politique monétaire qui ont pris des directions assez inconnues par rapport à un environnement économique lui-même qu'on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est un petit peu de permettre à Mathieu Gouest de nous donner les éléments à la fois fondamentaux et en même temps concrets de ce qui se passe dans les politiques publiques en ce moment, pour essayer de dessiner le moment où on le sentira, un peu le scénario le plus possible de sortie de tout cela, ce qui est sans doute un peu prématuré. Voilà, mais ce qu'il faut voir, c'est que les masses et les forces en action, aussi bien du côté des politiques budgétaires que des politiques monétaires, sont totalement inconnues, et le fait qu'elles soient inconnues rend très difficile toute conclusion. Néanmoins, on s'est dit que ça valait le coup d'y réfléchir et de partager avec nous nos réflexions. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et Mathieu, je te laisse la parole.
Merci François, bonsoir à tous. Donc je vous invite à prendre le document qu'on vous a envoyé. Donc sur le premier slide de slide 2, c'est juste pour montrer ce que tout le monde sait, mais c'est vrai que c'est bien aussi en le voyant hein, que la crise du Covid-19 a provoqué un coup d'arrêt économique qu'on n'a absolument jamais vu. Donc là, c'est la croissance au niveau de l'OCDE. Vous voyez qu'on est autour de moins 24%. Le pire du pire qu'on ait jamais vu jusque-là, c'était même pas moins 5. Donc on est à peu près à 5 fois pire que le pire qu'on ait jamais vu. Donc c'est vraiment un choc absolument incroyable. L'objet de cette présentation, c'est pas de vous faire un point sur l'épidémie, sur l'économie, etc. Mais juste en deux mots quand même, pour pas totalement occulter ça, sur l'évolution très récente, hein, sur l'économie, ça va quand même mieux. On a un flux de nouvelles qui reste positif, avec la majeure partie des indicateurs qui sont au-dessus, qui sont un en forte amélioration et deux qui sont au-dessus des attentes. C'est vrai à peu près partout, et en particulier c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai sur les enquêtes, donc ça c'est important. Sur la France, on a eu l'estimation par la Banque de France de l'activité au mois de juin, on était 9% seulement, si j'ose dire, sous la norme, sous la normale. En avril, on était 36% sous la normale. Donc l'amélioration est quand même assez spectaculaire, hein, de 36 en dessous à 9 en dessous. Et donc c'est des éléments qui sont assez encourageants, sachant que la France semble quand même ne pas être le pays qui s'en sort le mieux de la zone euro. L'Allemagne s'en sort beaucoup mieux. Et donc la France, quand on regarde que la France, on a une vue plutôt un peu noircie de la situation globale zone euro. Donc la zone euro serait peut-être encore mieux que ce moins 9, donc une amélioration qui est importante. Donc côté chiffres économiques, ça va plutôt mieux. Par contre, c'est vrai que côté épidémie, ça reste compliqué dans les émergents, dans pas mal de pays émergents, et ça se recomplique de plus en plus aux États-Unis, dans la partie le sud du pays. On a eu il y a quelques minutes les chiffres sur la Floride qui sont particulièrement mauvais aujourd'hui, et c'est voilà, les marchés sont un peu tiraillés entre des flux de nouvelles qui sont positifs et des flux de nouvelles économiques positifs, et puis des nouvelles sur l'épidémie qui sont moins positives, et même un petit peu de reconfinement, très très partiel, mais un petit peu de reconfinement dans quelques États américains. Voilà, donc c'était juste pour ne pas occulter l'actualité, et c'est pas l'objet de ma présentation. L'objet de la présentation, c'est de voir tout ce qui se passe avec les déficits, les dettes, les politiques monétaires. Donc le point de départ, c'est cette contraction totalement incroyable du PIB qu'on vient de voir sur le slide page 2. Et la conséquence première, ça a été la réaction absolument exceptionnelle des autorités face à cette crise qu'on voit sur la page 3, où on voit que les mesures budgétaires qui ont été implémentées, hors garantie et soutien liquidité, hein, donc c'est des vraies mesures dures, aujourd'hui représentent à peu près 7,1% du PIB au niveau du G20. Si on compare avec l'ensemble de la crise 2008-2009, même 2010, on s'aperçoit qu'on est pratiquement au double aujourd'hui de ce qui avait été fait à l'époque, sur 3 années, et sachant qu'on sait assez pertinemment que le stock de mesures qu'on a là, ce 7,1, n'est que la première partie. On sait que des mesures supplémentaires vont être annoncées encore dans les prochaines semaines, voire prochains mois, en particulier aux États-Unis, où on aura peut-être un plan encore plus important que le dernier plan. Et donc, il n'est pas du tout impossible qu'on finisse au-delà des 10%. Donc voilà, on est vraiment sur des mesures totalement exceptionnelles qu'on a jamais vues. En soutien à une activité qui s'est totalement arrêtée. Mécaniquement, sur la page suivante, la page 4, ça génère des déficits publics exceptionnellement élevés et une détérioration des dettes exceptionnellement rapide. Donc c'est vrai que c'est particulièrement vrai pour les États-Unis, mais les États-Unis jouent un rôle très important au niveau mondial. C'est vrai que beaucoup d'éléments que je présenterai au cours de la présentation touchent les États-Unis, un, parce qu'ils ont un poids et une importance clé, et deux, parce qu'on a des statistiques plus précises souvent, hein, et plus pertinentes sur les États-Unis. Mais en tout cas, sur les soldes budgétaires, la dégradation attendue est particulièrement exceptionnelle aux États-Unis, où on aurait un solde budgétaire au-delà de 20% de déficit, mais à peu près partout on est à minima à 10%, sachant que ce que je disais juste avant, que d'autres mesures vont suivre, c'est vrai aussi bien sûr en impact sur ces soldes budgétaires, hein. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est sans doute au mieux ce qu'on aura, et probablement qu'on aura des déficits bien pires si les mesures continuent à être annoncées à la régularité avec laquelle elles sont annoncées. Vous voyez que certes on pourrait se dire 2020, oui, mais 2020 est tellement particulier qu'il faut l'oublier. Mais en 2021, certes, on revient un peu, mais on revient que un petit peu. Hein. Aux États-Unis, on resterait sur 12% de déficit. Dans la zone euro, on serait encore à 5%, alors qu'on était quasiment à l'équilibre. Et donc voilà, on a une dégradation qui n'est pas que concentrée sur le deuxième trimestre 2020. Elle est sur tout 2020 et elle va au-delà sur 2021. Sur les dettes, c'est très impressionnant. Donc, les États-Unis passeraient à presque 150 points de PIB. Le Japon, qui a toujours un niveau, qui avait déjà un niveau élevé, resterait sur un niveau encore plus élevé. Mais ça, on perd un peu les ordres de grandeur. On sera à 265. Et si on regarde au niveau de la zone euro, on gagnerait à peu près 20 points en seulement 2 années. Face à ces déficits et dettes qui s'envolent, on a des quantitative easing annoncés par les banques centrales qui sont très importants. Donc le quantitative easing, ça consiste en des programmes d'achat de type de façon massive par la banque centrale, avec plusieurs objectifs selon les périodes. Initialement, c'était quand même pour abreuver de liquidité le système bancaire, pour s'assurer que lui-même joue son rôle de financement de l'économie. Ça a été aussi pour soutenir les actifs risqués en achetant du crédit, en évitant que les spreads s'écartent sur les marchés financiers. Et cette fois-ci, c'est aussi une façon de soutenir directement les États en leur permettant de faire du déficit, de soutenir la croissance et de se refinancer à des taux très attractifs. Et on voit donc que la taille des quantitative easing sont colossaux, puisque là où on a des ordres de grandeur préannoncés, on est autour de 12% du PIB. Mais aux États-Unis, au Japon, on a des programmes qui sont annoncés comme illimités potentiellement. C'est tout à fait... C'est des mesures qu'on a absolument, bien sûr, jamais vues. Donc une crise totalement exceptionnelle, des réactions totalement exceptionnelles, à la fois d'un point de vue gouvernement et d'un point de vue banque centrale. Par rapport à ces achats de banque centrale, on est au-dessus de 10% du PIB pour certains, pour d'autres on est sans limite. C'est vrai que des fois on nous demande, mais est-ce que c'est vraiment possible, est-ce qu'elles ont les moyens. En fait, il n'y a pas de limite aux capacités d'achat d'une banque centrale dans sa devise. Donc pour rappel, la banque centrale, c'est la banque des banques commerciales. Donc toutes les banques commerciales ont des comptes déposés auprès de la banque centrale. De ce point de vue-là, elle a un monopole. C'est-à-dire qu'une banque commerciale ne peut pas décider de changer de banque. Elle n'a qu'une banque possible. Il n'y a pas de choix possible dans une devise. Il y a cette situation de monopole. Et pour une banque centrale, acheter, ça correspond simplement à créditer le compte de la banque commerciale auprès de qui elle achète le titre. Ou si elle achète le titre à un client de cette banque commerciale aussi, elle va juste créditer. Donc c'est juste un jeu d'écriture comptable. Il n'y a pas de limite possible. Il suffit de, voilà, j'achète quelque chose à 100, bah très bien, je vous mets, madame la banque commerciale, 100 sur votre compte. C'est écrit. Et il n'y a absolument aucune limite à ce procédé. Et il y a vraiment... Alors on pourrait dire que les banques commerciales, c'est un peu la même chose. Une banque commerciale qui achèterait un actif à un de ses clients, il suffirait de créditer sur son compte un certain montant. La différence, c'est qu'une banque commerciale, ça a des contraintes réglementaires, ça a des ratios à respecter. Ça peut pas faire les choses sans limite, alors qu'une banque centrale n'a pas ce type de ratio à respecter. Et en plus, elle a cette situation de monopole qui fait qu'elle n'a pas de fragilité par rapport au fait qu'il pourrait y avoir une défiance des clients qui partiraient. Donc, on a bien une capacité d'achat illimitée. Alors, dans la limite des objectifs de la Banque centrale, hein, bien sûr, elle est censée mener une politique avec des objectifs d'inflation en particulier, de croissance aussi parfois, et elle doit avoir un mode opératoire, des actions cohérentes avec ça. Mais une fois que ça c'est assuré, il n'y a pas de limite, la Banque centrale peut acheter absolument sans limite. Donc, les achats, ça permet de financer les déficits des États. Alors c'est pas direct, hein, ça passe par le marché, mais la banque centrale rachète sur le marché derrière. Et puis ça fait baisser les taux d'intérêt. Et c'est vrai que la baisse des taux d'intérêt, c'est ce qu'on voit sur la page 6, ça semble permettre un endettement quasi illimité, puisque quand on regarde en fait la charge des intérêts pour la France sur une vingtaine d'années, on s'aperçoit que elle a monté pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années à peu près. Après, elle a rebaissé pendant 20-25 années. Elle est revenue à peu près à son niveau de départ, sachant qu'entre-temps, le niveau de la dette est passé d'à peu près 20% du PIB à 100% du PIB. Et donc, on voit bien que le stock de dette a beau grossir, si on fait baisser les taux d'intérêt versés, la charge d'intérêt ne monte pas. Si on caricature, hein, si le taux d'intérêt moyen de l'État français était de zéro, il pourrait avoir une dette quasi infinie, la charge d'intérêt serait nulle. Et donc voilà, c'est quand même important d'avoir ça à l'esprit. La baisse des taux d'intérêt a un effet massif, et aujourd'hui le stock de dette de l'État français, hein, n'a pas un taux de zéro parce qu'il y a des émissions anciennes, mais l'État français emprunte aujourd'hui à zéro, voire en territoire légèrement négatif, et donc il n'y a pas de problème d'un point de vue charge d'intérêt à augmenter la dette dès lors que les taux sont à zéro ou légèrement en dessous. Donc c'est vrai que ça soulève une question, est-ce que finalement on n'a pas une nouvelle solution un peu magique qui a été créée, où on peut faire du déficit public financé par des banques centrales de façon illimitée, et donc les États pourraient dépenser sans s'inquiéter des déficits et des dettes qui augmentent. Les banques centrales, via des quantitative easing, financeraient tout ça avec un coût proche de zéro. Et si on s'assure que c'est fait de façon un peu généralisée au niveau mondial, il n'y a pas de raison que la devise d'un pays soit plus attaquée qu'un autre. Donc on maintient une sorte d'équilibre. Alors, au lieu d'avoir un équilibre de gestion rigoureuse, on aurait un équilibre de gestion non rigoureuse. Mais tant que c'est à peu près les mêmes partout, on a l'impression que ça pourrait tenir. Alors c'est vrai que, là je passe à la page 8, c'est vrai que souvent une des façons de voir les choses, c'est de se dire il n'y a pas de problème parce que c'est juste une histoire entre la banque centrale et le gouvernement. Le gouvernement s'endette, donc fait du déficit, de la dépense, il s'endette, mais cet endettement, en fait, c'est la dette, elle est achetée par la banque centrale, et au global, c'est un peu une histoire entre eux, il n'y a pas d'effet collatéral. C'est pas le cas parce que on est sur quelque chose qui implique quand même le secteur privé à un moment. C'est ce qu'on montre sur la page 8. Sur la page 8, on vous a juste modélisé ce qui se passe quand, si on prend un cas un peu simple, hein, où l'État, comme aux États-Unis, ça a été fait aux États-Unis, envoie des chèques aux ménages et pour ce faire, émet des obligations qui sont rachetées derrière sur le marché par la Banque centrale. Donc l'État, lui, se crée un passif. C'est-à-dire, dans un premier temps, il émet l'obligation de 100 et puis il a un actif de 100. Mais comme ces 100-là, il les envoie au ménage, il lui reste plus que le passif. Donc il s'est créé un passif de 100, il doit rembourser des obligations d'État. Si je vais en bas à droite, en diagonale, on a les ménages. Alors les ménages, c'est simple, ils ont un dépôt de 100 qu'ils ont reçu. Et puis quand on regarde après au niveau des banques centrales et banques commerciales, parce que c'est quand même important d'avoir ça à l'esprit, c'est que certes la banque centrale a pu acheter les obligations d'État sur le marché, et elle a bien ça comme actif, elle a les 100 équivalents émis par l'État à son actif, mais elle s'est créé un passif, parce que pour pouvoir racheter ces titres d'État, elle a dû créditer quand même le compte des banques commerciales. C'est ce que je disais, il suffit de créditer, mais le fait de créditer, c'est quand même reconnaître une dette par rapport aux banques commerciales. Donc elle s'est créée un passif par rapport aux banques commerciales. Et les banques commerciales, eux, ont un bilan qui est équilibré, puisque, en fait, d'un côté, elles ont des dépôts de leurs clients qui correspondent à un passif. C'est quelque chose, c'est de l'argent qu'elles doivent à leurs clients. Mais en face de ça, elles ont des réserves auprès de la banque centrale, qui est de l'argent que les banques centrales leur doivent. Donc voilà, donc là ça décrit un petit peu comment ça se passe en termes d'actifs passifs pour chacun des acteurs. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout une histoire qui reste entre l'État et la Banque centrale, puisqu'on a d'abord un flux de richesses qui est que l'État s'est créé un passif et en échange il a créé un actif au ménage. Donc c'est les deux acteurs qui ne sont plus à l'équilibre, il y en a un qui est plus pauvre qu'avant et l'autre qui est plus riche, assez logiquement, puisqu'il y a un envoi de chèque. Et puis il y a eu un flux de liquidités qui finalement part de la banque centrale, transite par les banques, mais finit sur le compte des agents privés. Et c'est les agents privés, tout d'un coup, qui se retrouvent avec ces dépôts qui sont assez importants. Et donc, voilà, cette politique a un double effet, c'est qu'elle crée un effet richesse côté agents privés, et elle crée un flux et donc un stock de liquidités sur les agents privés. Donc c'est vrai que ce mécanisme est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau. Si on passe page 9, on vous a 9 et 10, on vous a mis deux graphiques où on rappelle que c'est pas nouveau, que ça s'est produit en 2008-2009, donc à la fois du déficit budgétaire et puis de la création de liquidités. Mais ce qui est important de voir, c'est que l'ampleur est totalement inédite. Donc là, on a un graphique très très long sur les États-Unis. Vous voyez qu'on monte à 1870, donc on a plusieurs guerres. Et on voit que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si on s'arrête là, et on sait qu'on ne s'arrêtera pas là, on sait que la courbe en bleu clair à la fin, là, elle va descendre plus bas avec sans doute le troisième plan, le dernier plan qui va être annoncé, qui risque d'être très important. On est sur quelque chose qui, déjà en l'état, est très très supérieur à ce qu'on avait fait en 2008-2009, qui va être encore plus gros, et qui est le genre de déficit qu'on a vu qu'en période de guerre. On n'a absolument jamais vu ça hors période de guerre. Donc c'est un peu le même esprit que 2008-2009, mais avec une ampleur beaucoup plus grande et une violence qui est dans l'implémentation qui n'a rien à voir, donc d'un point de vue budgétaire. Et sur la page 10, vous voyez que aussi d'un point de vue monétaire, flux de liquidité, on est sur quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu. C'est encore beaucoup plus impressionnant de ce point de vue-là. C'est quand on rapporte la masse monétaire M2 au PIB. Alors pour rappel, la masse monétaire M2, ça correspond en fait aux pièces, aux billets, et puis tout ce qui est compte courant et aussi les comptes à vue très courts, les livrets. Donc c'est tout ce qui est considéré comme étant vraiment très liquide, l'argent vraiment disponible dans un délai très court pour pouvoir en disposer. Et donc cette masse monétaire, en général, c'est un certain pourcentage du PIB, puisque ces liquidités que les gens conservent disponibles, c'est en général proportionnel aux dépenses qu'ils peuvent faire pour les ménages ou au chiffre d'affaires qu'ils peuvent avoir pour les entreprises. Et donc ça, c'est en général, ça évolue de façon parallèle au PIB, et le rapport de l'un sur l'autre a été assez stable historiquement. On était autour de 60% du PIB, un peu en dessous en moyenne. Et puis vous voyez que avec les quantitative easing qui ont été additionnés les uns aux autres, on a créé une petite tendance haussière quand même entre 2009 et puis 2016-17. Et puis là, par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est un mouvement qui est absolument sans commune mesure avec ce qu'on a connu par le passé. Même pendant la guerre, on n'a pas connu de choses aussi violentes. Et donc voilà, c'est quand même ce qui caractérise la période actuelle. En particulier aux États-Unis où on a des statistiques qu'on peut bien comparer, c'est que c'est pas nouveau dans l'idée, mais c'est totalement inédit dans la violence et dans l'importance des montants qui sont en jeu. Donc ça soulève un certain nombre de questions, en particulier l'envolée de la masse monétaire soulève une question. historiquement, hein, il y a donc pendant longtemps, les banques centrales regardaient beaucoup les masses monétaires parce qu'elles étaient précurseuses de l'inflation. C'est un peu moins suivi depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que là, l'envolée est tellement importante que c'est quelque chose qui peut quand même poser des questions. Une première question, c'est est-ce que ce niveau de liquidité, c'est vrai qu'on pourrait se dire ça, certes, il y a beaucoup plus de liquidité disponible aujourd'hui avec ce qui s'est fait, mais peut-être que en fait, les agents privés sont très contents d'avoir beaucoup plus de liquidité puisque l'inquiétude est beaucoup plus forte avec le Covid-19 qu'on ne l'a jamais eu. Et voilà, peut-être que finalement, eux-mêmes sont assez contents d'avoir ces liquidités et que ces liquidités ne vont pas poser de problème. C'est pas tellement validé par les enquêtes qu'on a. En page 11, vous avez le niveau de confiance des consommateurs aux États-Unis. Donc, on reprend encore les États-Unis, parce qu'on a des historiques très longs. Et vous voyez que certes, on a eu une baisse assez violente, mais déjà, on a commencé à rebondir. Et au niveau actuel, on est autour de 100. On est plutôt un peu au-dessus de la moyenne historique. Donc, on n'est pas dans des niveaux d'anxiété jamais vus qui justifieraient des niveaux de liquidité jamais vus. Et donc, on se retrouve bien avec une situation où les banques centrales, à la fois les banques centrales et les gouvernements, puisque c'est l'addition des deux, hein, ont créé un stock de liquidités chez les agents privés, absolument non souhaité a priori, absolument non justifiable par la situation de stress ou autre chose. Et donc c'est vrai que ça interroge, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer avec ces liquidités. Page 12, c'est juste pour rappeler que c'est pas si simple que ça pour le secteur privé de faire baisser son niveau de liquidité. En tout cas, quand on le pense en agrégé, hein, si on pense à un seul individu, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on est en agrégé, c'est beaucoup plus complexe. La première idée, c'est de se dire, si on m'a envoyé un chèque, par exemple, et que j'ai du cash, je vais simplement le dépenser, aller au restaurant, ou je sais pas, acheter une nouvelle voiture, ou qu'importe. Mais en fait, là, on ne fait pas disparaître la liquidité, on la transfère à un autre agent privé. Et donc, ça va être une entreprise dans un premier temps, et puis via les salaires, des bonus, ou les dividendes, je ne sais, ça va se rediffuser après. Donc là, il y a juste un compte qui est débité et un compte qui est crédité, mais l'argent, la liquidité n'a pas disparu. On peut se dire que on peut l'investir, acheter un actif, une action, une obligation. Mais là aussi, en fait, ça ne fait qu'on débite le compte de celui qui achète l'action, mais uniquement pour créditer le compte de celui qui l'a vendu, parce qu'il y a toujours un vendeur en face d'un acheteur. Donc là aussi, la liquidité ne diminue pas. Donc ces deux idées les plus simples pour que la liquidité diminue, en fait, ne fonctionnent pas. Alors il y a une idée qui existe aussi, que nous dit la théorie, c'est que les liquidités peuvent être diluées par le fait que ces politiques très accommodantes peuvent générer en fait de l'inflation, et donc si tout d'un coup les prix augmentent beaucoup et donc les revenus augmentent beaucoup, si tout augmente beaucoup, finalement le niveau de liquidité va peut-être paraître être adapté à cette nouvelle situation où le PIB en nominal et les revenus, etc., sont beaucoup plus élevés. C'est possible en théorie. C'est vrai que l'envolée de la liquidité aujourd'hui est quand même très très important. On a une augmentation qui est peut-être de 20 ou 30%, on imagine mal quand même les prix s'ajuster de 20 ou 30% à la hausse pour faire qu'en volume les liquidités soient de nouveau normal. Après, dans la pratique, il y a trois, quand on regarde, je suis sur la page 13, concrètement, il y a trois façons, si on se dit que ce niveau de liquidité est vraiment non tenable, pour que ça diminue véritablement. C'est en fait, comme on s'intéresse aux liquidités qui sont dans le secteur privé, c'est de les faire sortir de ce secteur privé. Donc il y a une première façon, c'est un transfert de liquidités vers l'État. Ça peut se produire si tout d'un coup on a une baisse des déficits, voire la création d'un excédent budgétaire, qui pourrait venir d'une très bonne conjoncture ou d'un durcissement fiscal. Donc ça, c'est vrai que c'est une des possibilités. C'est que ce que l'État a donné d'une main, il le reprenne d'une autre. On reviendra un peu sur ce sujet derrière. Il y a une autre façon, c'est un transfert vers l'extérieur. Ça se produit souvent, en fait, quand vous avez un seul, souvent petit pays qui fait une relance totalement exagérée, une politique très expansionniste budgétaire et monétaire, et en fait, tout l'argent qui est distribué finit en importation. Et au final, la liquidité part dans le reste du monde. En général, ça s'accompagne d'une très forte baisse de la devise et aussi d'une apparition d'inflation. Mais là, il n'y a aucune raison de voir des mécanismes de ce type-là, puisque les plans de relance sont mondiaux, donc il n'y a pas un pays qui est fragilisé par rapport aux autres. Et puis la dernière façon, qui est la façon la plus classique, on va dire, c'est le transfert vers les banques, ou plus simplement dit, une destruction de liquidité. Pour rappel, en fait, quand une banque octroie un crédit, elle crée des liquidités dans le système économique. Si un agent privé décide de rembourser un prêt ou de renoncer à un prêt qu'il aurait dû faire parce qu'il a assez de liquidité, quelque part, il détruit la liquidité. Donc ça, c'est une possibilité. Par contre, c'est vrai que ce serait une façon d'entériner la hausse de l'épargne financière nette des ménages. Ça voudrait dire qu'on leur a transféré de l'argent et que plutôt que de l'utiliser pour consommer, acheter des choses, ils décideraient de uniquement l'épargner en net, ce qui serait assez étonnant, puisque certes, il y a un taux d'épargne qui existe sur les revenus, mais c'est plutôt, selon les pays, entre 8 et 15%, c'est pas 100%, et on pourrait se demander pourquoi les ménages feraient ce choix de finalement épargner en net, en diminuant leurs prêts, cette somme qui leur a été allouée. Alors pour éclairer cette question, je passe à la page suivante. C'est un slide qui pour moi est intéressant parce que c'est un slide dont c'est une idée qu'on oublie un peu sur ces sujets. Quand on focalise sur le déficit public, l'augmentation des dettes publiques, c'est que les jeux de déficit et d'épargne sont quelque part, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que pour qu'un acteur économique emprunte, il faut qu'un autre lui prête. Pour que certains creusent leur déficit, il faut que d'autres épargnent davantage. Et ça peut très bien se résumer. Donc, on est toujours sur les États-Unis, hein, où on a le plus de statistiques, où on a des statistiques d'épargne financière nette des agents économiques. Et on voit par flux, hein, ce que chaque acteur économique épargne en net. Alors là, on a regroupé tout le secteur privé en une seule courbe, sinon on aurait eu trop de courbes et ça rendait le graphe illisible, mais on a une décomposition, hein, qu'on verra partiellement derrière, entre ménages, entreprises et banques. Et vous voyez bien que la somme des trois courbes est toujours égale à zéro. Alors là, on a trois acteurs, hein, quand on simplifie à l'extrême. On a d'une part le gouvernement, en rouge, d'autre part le secteur privé, en bleu foncé noir, et puis il y a aussi le reste du monde, puisque il y a aussi une possibilité comme ça que j'ai déjà évoquée via le solde commercial. Et on voit que quand on additionne les trois courbes, on est vraiment à zéro, hein, c'est une équation mathématique comptable qui est absolument forcée. Alors ce graphique est déjà intéressant parce qu'il rappelle une chose qu'on oublie, c'est que donc là, on voit, hein, pour le gouvernement américain, il a une position négative, un peu structurelle. Donc chaque année, il a une épargne financière nette négative. Il s'endette un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais quelque part, c'est un peu nécessaire parce que le secteur privé, lui, a fondamentalement une position positive. Et en fait, cette position positive, elle tient essentiellement aux ménages. Les ménages, structurellement, au cours de leur vie, vont faire croître leur patrimoine, vont épargner. Et donc, pour que l'équilibre fonctionne, il faut bien que les États, en moyenne, soient déficitaires si on veut que le secteur privé soit excédentaire en termes d'épargne. Donc, ça rappelle quand même qu'il y a une forme de logique, en un sens, à avoir du déficit du côté du gouvernement, s'il est raisonnable et s'il n'y a pas de dérapage. Et donc la question que soulève ce graphique, c'est que la courbe rouge, on peut imaginer que très vite elle va sortir du graphique par le bas, puisque on va être peut-être à moins 25% hein, d'épargne financière nette pour les États-Unis sur le gouvernement en 2020. Et donc si la courbe rouge sort par le bas, c'est que on a une courbe bleue qui va se rapprocher du haut, voire sortir par le haut. Comme on l'a dit, il n'y a pas de raison que la courbe bleu clair se déplace beaucoup, puisque c'est un solde commercial avec le reste du monde, et sachant que chacun, quand même, dans chaque pays, a des plans de relance importants. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une envolée totalement historique de l'épargne financière nette des agents privés. Et on retrouve l'idée, hein, qu'on voyait juste avant, quand on regardait ça en termes de liquidité, c'est que voilà, on a l'impression que on va contraindre les agents privés à épargner davantage, mécaniquement, hein, par une loi comptable. Et la question, c'est est-ce que c'est si évident que c'est quelque chose qui va se produire naturellement? Et pour rappel, je disais, hein, c'est vrai que des plans de relance comme on en a eu là, c'est pas quelque chose de totalement nouveau, même si l'ampleur est inédite. Mais ce qui est assez inédit, c'est que normalement, ce type de plan de relance a lieu pour compenser le retrait d'un agent privé au moment de la récession, puisque souvent vous avez une croissance économique dans l'expansion qui s'appuie sur un secteur privé qui se leverage progressivement et qui prend des positions de plus en plus marquées, pas forcément soutenables, et au moment de la récession, ploup, vous avez l'agent privé qui se retire très violemment, et là, si vous n'avez pas un acteur qui se met en face, vous risquez d'avoir une spirale baissière, et le seul acteur qui peut dans ces moments-là se mettre en face en dépensant plus, c'est bien sûr l'État. Et cette fois-ci, on ne voit pas tellement en fait ce qui va jouer ce rôle-là. Donc page 15, on vous a juste remis en fait ce qui s'était passé en particulier sur la crise de 2008-2009. Le secteur qui s'était le plus leveragé, qui avait fait des excès qu'on n'avait jamais vus, c'était les ménages, où ils ont normalement une épargne financière nette en moyenne entre plus 4 et plus 6. Ils étaient tombés en territoire négatif, et donc c'était pas tenable, donc ils sont passés directement de presque moins 2 à plus 6, et donc forcément, il fallait que quelqu'un se mette en face, et ça a été l'État qui s'était mis en face. Mais aujourd'hui, on voit pas tellement, en fait, il n'y a pas eu d'excès. En 2000, il y avait des excès d'investissement des entreprises, en technologie en particulier. En 2005, 6, 7, il y a eu des excès d'investissement résidentiel par les ménages. Cette fois-ci, on ne voit pas tellement les excès du secteur privé qui vont devoir être corrigés. Et donc, on ne voit pas tellement pourquoi le secteur privé se retirerait comme ça, verrait son épargne nette s'envoler en face de déficit public. Et on le voit d'autant moins qu'on n'a même pas d'effet richesse négatif sur la récession qu'on connaît, ce qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez une récession, il y a le prix des actifs qui s'écroule, au moins le prix des actions, voire le prix de l'immobilier. Et le fait de voir son patrimoine tout d'un coup baisser aussi violemment en valeur de marché incite au moins partiellement les agents privés à vouloir réépargner plus pour reconstituer un stock qui a fondu. Cette fois-ci, c'est même pas le cas, hein. Le marché actions au niveau mondial, il est quelques pourcents en dessous du niveau de début d'année. Les marchés immobiliers dans le monde sont quasiment partout au plus haut absolu de tous les temps. Ils ont continué à monter les derniers mois. Donc on n'a même pas ce facteur-là à essayer de prendre en compte, à compenser. Et donc ça rend assez peu naturel, donc assez peu justifiable le fait que le secteur privé va vouloir se retirer. Et donc sur page 16, et donc ça fait que la politique expansionniste de l'État, non seulement elle est incroyablement plus violente que ce qu'on n'a jamais vu, mais quand elle se produit en plus à un moment où elle ne semble pas venir compenser un retrait du secteur privé. Et donc on ne peut pas exclure que son effet entraînant sur l'économie soit beaucoup plus fort qu'on ne l'ait jamais vu. Et on peut aller jusqu'à imaginer qu'on pousse trop loin l'économie, qu'on provoque une surchauffe qui, in fine, produise de l'inflation. Alors, je ne parle pas dans les 2-3-4 mois qui viennent, hein, ça, c'est clairement pas le cas, mais on ne peut pas exclure que ce soit des mécanismes qui commencent à apparaître à la fin de l'année 2021. Ce n'est pas non plus du tout une certitude, hein, François Saint-Pierre le disait très bien en introduction, on est sur des événements qui se sont jamais produits, sur des ordres de grandeur qu'on n'a jamais vus, donc on est loin de pouvoir être catégorique sur un scénario ou sur un autre. Mais ça nous semble être un scénario qui existe et qui a une probabilité non négligeable de voir une économie qui, finalement, si évidemment l'épidémie se résorbe rapidement, d'avoir dans un second temps une forme de surchauffe à cause de cette relance absolument inédite. C'est un scénario qui serait assez problématique pour les banques centrales, parce que si l'inflation réaccélère, vu que leur rôle c'est de contenir l'inflation, Ça pèsera sur leur crédibilité, surtout que les banques centrales poussent les gouvernements à dépenser plus. On ne peut pas dire qu'elles essaient de les freiner, donc elles devront assumer totalement les conséquences de la politique actuelle. Par contre, c'est vrai que c'est un scénario qui serait idéal pour résorber les dettes, puisqu'on aurait un effet dilutif. Page suivante, on a voulu aborder rapidement une idée qu'on nous évoque, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas simplement annuler la dette d'État détenue par les banques centrales? Nous, notre conclusion, c'est que ça ne change rien de faire ça. C'est plutôt de la poudre aux yeux, puisque si on annule la dette détenue par la banque centrale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer une perte. Elle avait un actif qui valait 100, tout d'un coup, on dit que l'actif vaut 0, elle fait 100 de perte. Mécaniquement, elle passe avec des, elle a des fonds propres négatifs. Donc, si les 100 sont assez gros par rapport à ses fonds propres actuels, mais si on efface toutes les dettes, c'est largement suffisant pour effacer tous les fonds propres et créer des fonds propres massivement négatifs. Premier scénario à gauche, bah, l'État recapitalise. Mais dans ce cas, bah, il ne fait que remettre l'argent qui vient d'être effacé. Donc en fait, il se recrée instantanément la dette. Il n'y a pas eu de progrès d'un point de vue dette d'État. Deuxième solution, quand on est encore plus innovant, c'est qu'on c'est certains économistes qui disent bah, on n'a qu'à garder des fonds propres négatifs et de ne pas reboucher le trou. Là, donc ça nous amène deux commentaires. C'est que remplacer une dette d'un État par des fonds propres négatifs d'une banque centrale qui appartiennent à la sphère publique, on n'est pas sûr que ce soit un véritable progrès, puisqu'en face de ces fonds propres négatifs, il faut quand même garder à l'esprit que les banques centrales ont une dette, un engagement vis-à-vis des banques commerciales qui ont des dépôts chez elles. Donc il n'y a pas de changement de front, hein, y a toujours un passif du secteur public agrégé dans ce cas-là. Et puis surtout, ça pose un gros problème de crédibilité sur la banque centrale, bien entendu. Page 18, on a voulu aborder le sujet de façon peut-être plus réaliste, c'est-à-dire peut-être qu'effacer les dettes, ça ne change rien, mais est-ce que finalement on ne peut pas continuer cette politique durablement de déficit public important, finissé par les banques centrales? Est-ce qu'on n'a pas trouvé, est-ce que ce ne serait pas une dont la panacée on est là aussi sceptique, en tout cas si on caricature la chose. Donc d'abord, on rappelle que le déficit public ne crée ni richesse réelle, ni capacité de production. Et ce qui intéresse quand même les acteurs économiques, c'est de bénéficier de biens, soit des appartements, soit des biens qu'ils peuvent acheter. Et si on n'augmente pas le nombre de biens, on voit bien que c'est difficile de créer une vraie richesse pour les agents privés. Et pour montrer ça de façon un peu marquée, en caricaturant, si on imagine que tous les États dans le monde virent instantanément 10 millions d'euros sur les comptes bancaires de tous les citoyens, ce qu'ils pourraient faire en théorie, on se doute bien que tous les citoyens dans le monde ne seront pas plus riches, ne seront pas tous multimillionnaires, comme j'aime le dire un peu en plaisantant, ils ne seront pas tous propriétaires soit d'un appartement dans le centre de Paris ou dans le centre de New York, d'une résidence secondaire sur la Côte d'Azur ou en Floride, et ils n'auront pas tous des Ferrari ou des Lamborghini dans leur garage. C'est pas réaliste, tout simplement parce que ces biens qui valent de l'argent sont en nombre limité. Même les Ferrari, on ne peut pas en produire à l'infini. Si ça vaut aussi cher, c'est que ça prend énormément d'heures de travail. Et dès lors que l'État n'a pas la capacité à créer ses biens ou créer de la main-d'œuvre pour produire ses biens, en fait, il ne fait que créer une illusion monétaire. Et on voit bien que dans ce cas, bah, on aurait un ajustement des prix immédiat. Tous les biens un peu luxueux s'envoleraient aussitôt, et même les biens habituels verraient leur prix s'envoler, et on aurait juste un ajustement par les prix pour rééquilibrer l'offre et la demande, l'offre de biens n'ayant pas changé et la demande s'étant envolée, au moins en nominal, à cause de cet argent créé un peu fictivement. Et on précise, hein, si un seul pays le faisait, on aurait bien sûr une baisse très violente de sa devise. Donc ça, c'est si on pousse les choses de façon un peu caricaturale. 10 millions d'euros sur chaque compte bancaire, c'est vrai que c'est un peu caricatural. Et il y a une idée qui existe aujourd'hui, c'est de se dire, oui, c'est vrai que si on fait les choses de façon caricaturale, on perd le bénéfice parce qu'il y a des effets collatéraux d'envoler des prix. Mais est-ce que finalement, avec un niveau d'inflation aussi bas que celui qu'on a aujourd'hui, on pourrait pas faire un peu de déficit, alors est-ce que c'est 5, 10, 15, 20% de PIB, je ne sais pas, mais en tout cas pas 10 millions sur chacun des comptes. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir qu'un effet positif sur l'activité et sur la croissance sans avoir de véritable impact négatif par une érosion, par des poussées inflationnistes? C'est quelque chose qui est assez séduisant, on en convient. Pour nous, il y a quand même trois risques importants, trois problèmes. La première, c'est que donc c'est l'idée, hein, ce serait de pouvoir faire de l'injection par les déficits et de se dire bah, tant qu'il n'y a pas d'inflation, je peux le faire, et s'il y a de l'inflation, je m'arrête très vite. Le premier problème, c'est que bah, une fois qu'on a fait du déficit un certain temps, c'est pas si simple d'arrêter d'en faire. On s'habitue à si on baisse les impôts, ce sera pas si simple de les remonter. Si on fait beaucoup de dépenses, ça sera pas si simple de les arrêter. Donc c'est quand même plus compliqué que ça. D'autre part, l'idée que dès que l'inflation donne des premiers signes, il suffit que je baisse mon déficit en admettant qu'on arrive à le faire. Est-ce qu'on est sûr que ça arrêtera aussitôt l'inflation? C'est pas sûr. Il y a des inerties très importantes sur l'inflation. Hein, on le découvre de plus en plus. Des inerties à la baisse, mais aussi des inerties à la hausse. Et donc, pour reprendre l'expression, une fois l'inflation sortie de sa boîte, est-ce qu'on est sûr de pouvoir la faire re-rentrer? C'est pas du tout sûr. Et puis, la troisième limite, le risque de cette stratégie, c'est la remontée des taux d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on explique dans le dernier point. C'est que si à un moment, effectivement, l'inflation accélère, la Banque centrale va être obligée de remonter ses taux d'intérêt pour la contenir. Et là, on va avoir une explosion tout d'un coup du coût de la dette pour les États. C'est-à-dire que non seulement la dette qu'ils détiennent, détenue par des agents privés, ils vont se mettre à émettre avec des taux d'intérêt plus élevés, mais l'idée que ce qui est détenu par la Banque centrale, c'est un jeu à somme nulle, dans le sens que l'État paierait plus d'intérêts, mais comme il les paye à la Banque centrale qui lui reverse derrière, il n'y a pas d'impact, c'est pas vrai, puisque la Banque centrale, elle, en face de cet actif qu'elle détient, elle a un passif qui est les réserves que les banques commerciales ont chez elles. Et si elle remonte les taux d'intérêt, elle remonte aussi les taux d'intérêt qu'elle doit verser pour ses réserves. Donc elle ne gagne rien, elle reçoit plus de l'État, mais elle paye plus aux banques commerciales, et donc le surcoût pour l'État, il est pas du tout compensé. Et donc là, on pourrait avoir quelque chose d'assez explosif, puisque le graphe très sympathique où la dette s'envolait, alors même que la charge d'intérêt baissait grâce au taux d'intérêt qui baissait, on pourrait avoir exactement l'inverse, avec une charge d'intérêt qui s'envolerait, alors même que la dette ne progresserait plus. Sur la question de comment résorber les dettes publiques, il y a une première chose déjà, c'est qu'il faut revenir à un déficit public raisonnable. Donc là, je suis sur la page 20. Ça va se faire assez naturellement dans les prochaines années, parce que la plupart des mesures qui sont implémentées sont des mesures de court terme sur 2020 et 2021. Donc on va revenir sans doute à un déficit un peu plus raisonnable spontanément. Et pour résorber les dettes, il va falloir aller au-delà de ça. Donc en théorie, il y a trois solutions. Soit on durcit la fiscalité, donc on améliore en force, on va dire, le déficit, soit en montant les impôts, soit en coupant sur les dépenses. Deuxième possibilité, c'est que le déficit s'améliore spontanément grâce à une conjoncture favorable. On ne peut pas l'exclure. Avec toutes ces mesures de relance, il y a un moment où la conjoncture peut vraiment en bénéficier. Ce serait quand même étonnant que ce soit suffisant pour permettre un déficit suffisamment bas, voire un excédent budgétaire qui pourrait vraiment résorber très rapidement la dette. Et la dernière solution qu'on a déjà évoquée, ce serait une dilution en fait de cette dette. La dette, on la garde toujours par rapport au PIB. Si le PIB en nominal, donc y compris inflation, progressait très rapidement, c'est vrai qu'on aurait une dilution. Aujourd'hui, on est franchement dans l'incapacité de vous dire, ça sera sans doute dans une combinaison de ces trois facteurs, on est incapable de vous dire aujourd'hui lequel des trois va l'emporter. C'est vraiment, on est à un moment où la visibilité est quand même extrêmement, extrêmement limitée. Là où on a l'impression de pouvoir apporter un début de réponse, c'est page 21, c'est la question de savoir si un durcissement brutal à court terme de la fiscalité est probable, est à craindre. Et notre sentiment, c'est que a priori, non. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce qui contraindrait les gouvernements à entamer à marche forcée une réduction de leur déficit pour une réduction de leur dette. D'une part, parce que d'abord, il n'y a pas de pression spécifique sur certains gouvernements pour le faire comme en 2011-2012. En 2011-2012, il y avait des gouvernements qui avaient été jugés coupables de mauvaise gestion et ils devaient un peu le payer. C'était le cas des pays du Sud, de l'Europe. On voulait vraiment qu'ils fassent des efforts très rapidement. Mais là, on n'a pas de pays qui à punir, entre guillemets, puisque personne n'est responsable du Covid-19. On n'est pas du tout dans un schéma de ce type-là. Et après, il y a deux scénarios principaux. Le premier scénario, c'est celui où l'inflation resterait totalement contenue dans les 2-3 prochaines années, alors même qu'on a mis toute cette masse d'argent en circulation. Et dans ce cas, les banques centrales vont être très confortables pour continuer le quantitative easing, pour continuer à acheter des dettes d'État. Donc pour les États, si les banques centrales sont toujours massivement à l'achat, il n'y aura pas de pression urgente pour améliorer la situation financière. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas faire des efforts, mais est-ce qu'il y aura une urgence qui les contraindra à quelque chose de très brutal? On n'a pas ce sentiment. Et à l'inverse, si on a une vraie accélération de l'inflation, C'est vrai qu'à un moment, les banques centrales monteront leur taux. C'est vrai que ça aura un impact dans un deuxième temps sur les États. Mais en même temps, l'accélération sans doute de la croissance en volume couplée à cette accélération d'inflation aura comme premier impact, d'une part, une amélioration des recettes et donc une amélioration du déficit naturel qui va se produire assez rapidement, et d'autre part, une dilution du ratio dette sur PIB, et donc une amélioration un peu fictive quelque part, mais quand même une amélioration de la perception du niveau de la dette par rapport au PIB. Et en fait, pour nous, le véritable risque, c'est non pas pour les agents privés de voir un durcissement très brutal être mis en place, c'est surtout de voir leur placement érodé par l'inflation. On pense que c'est surtout là où ça se joue, hein. L'État s'en sort aujourd'hui malgré ses déficits parce qu'il emprunte à zéro. À tout jeu, quand il y a un gagnant, c'est qu'il y a un perdant en face. Et pour nous, le vrai sujet aujourd'hui pour les agents privés, c'est surtout cette forme de prélèvement implicite qui existe quand on leur demande, quand on les oblige quelque part à prêter à un taux autour de zéro, alors même que l'inflation n'est pas à zéro et qu'elle pourrait peut-être accélérer au cours des prochaines années. Page 22 et 23, on a juste voulu évoquer les pays périphériques, puisque c'est vrai que c'était la dernière crise. Est-ce qu'on a une crise des pays périphériques à craindre à court terme? C'est pas notre sentiment. Alors, page 22, c'est clair que l'évolution des déficits, l'évolution des dettes dans les pays du Sud est assez préoccupante, hein. On peut pas le nier, en particulier la Grèce et l'Italie. Si on regarde le rapport dette sur PIB en 2021, on sera à peine en dessous de 200% pour la Grèce, on sera à 150% pour l'Italie. Donc c'est clairement des niveaux qui posent question et qui créeront des tensions et des problèmes à un moment. Pour autant, page 23, on a l'impression qu'à court terme, on ne devrait pas avoir de sujet. On a trois facteurs qui soutiennent. Il y a l'annonce récente d'un probable, c'est un projet encore, mais la création d'un fonds européen de 750 milliards où il y aurait une solidarité entre pays européens, donc ça soulagerait quand même les pays du Sud. On a la Banque Centrale Européenne qui, par rapport à 2011, dispose d'un nombre d'outils très importants de soutien des dettes et une volonté qui est clairement affichée de les utiliser. Il y avait la Cour constitutionnelle allemande, hein, qui s'était inquiétée que ce ne serait pas constitutionnel ce que faisait la BCE. Vous avez sans doute vu que le Parlement allemand a voté un texte pour valider ce que faisait la BCE, donc il n'y a plus trop de questions juridiques. Et puis, je l'ai déjà évoqué, comme troisième facteur de soutien de différenciation par rapport à 2011-2012, il n'y a pas de volonté de stigmatiser, de punir des pays qui auraient fauté. Et donc, on a plutôt une solidarité, cette fois-ci véritable, très forte, qui a l'air de se mettre en place, même si certains pays freinent encore. On a quand même ce mouvement avec l'Allemagne qui se conduit de façon très différente par rapport à 2011. Page 24, c'est la page de conclusion. Comme François de Saint-Pierre l'a dit, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas de conclusion en ce sens qu'on est catégorique sur ce qui va se passer. On pose plutôt des questions. On a voulu souligner des interactions, des liens entre les différents éléments qui rendent la situation plus compliquée et peut-être moins, dans un sens peut-être aussi moins inquiétante qu'une lecture simple. Sur cette utilisation de la combinaison de déficit public, soutien monétaire, c'est clair que ce n'est pas la panacée, on l'a dit, ça ne résout pas tout, ça peut générer des problèmes. En même temps, je ne pense pas que ce soit un sujet à quelques mois, c'est-à-dire qu'on a quand même une inflation qui est à un niveau bas aujourd'hui, et avant qu'on ait des pressions inflationnistes, il faudra à minima peut-être 15 ou 18 mois. C'est un outil qui a été trouvé, qui clairement dans le fond a ses limites, mais qui dans son utilisation concrète à très court terme reste utile sans doute pour les gouvernements. Par contre, si effectivement dans un deuxième temps on a une accélération de l'inflation, là on aura un vrai test d'abord d'indépendance et de résolution des banques centrales. Ça sera un vrai sujet, puisque les banques centrales n'ont fait que devenir de plus en plus accommodantes depuis 20 ans. Et donc est-ce qu'elles auront cette capacité à faire marche arrière? C'est pas sûr. Beaucoup des gouverneurs présents aujourd'hui n'ont jamais eu vraiment de politique de durcissement face à de l'inflation, donc ça sera un vrai test. On voit aujourd'hui qu'elles ont une tolérance assez incroyable à, à des poussées temporaires d'inflation. Et donc, faudra vérifier quelles seront à un moment, si ça se produit, hein, bien sûr, constater que le temporaire n'est pas si temporaire que ça. On a une question qu'on pose, hein, c'est savoir qu'est-ce qui se passera si tout le monde sous-estime la vigueur de la reprise. Donc ça, il y aura un impact sur l'inflation sans doute. Il y aura aussi ça sera sans doute une bonne nouvelle aussi sur les déficits. Hein. On ne peut pas écarter que ces mesures absolument colossales au niveau mondial, finalement, aient un effet bénéfique sur la croissance qu'on n'anticipe pas, et donc un effet bénéfique via des déficits qui se réduiraient dans un deuxième temps et via une accélération d'inflation. Par contre, c'est vrai que si ça se produit, le jour où ça se produit, il y aura des changements d'anticipation sur les marchés, sans doute des remontées de taux qui seront assez compliquées et qui pourraient créer de la volatilité. On peut pas l'ignorer. Et je disais, on n'a aucune certitude par rapport à ce qui va se passer. En fait, on n'en a qu'une, c'est ce qui est résumé par le dernier point. C'est comme selon l'expression hein, consacrée sur les marchés qui est en anglais, désolé, c'est qu'il n'y a pas de free lunch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repas gratuit. S'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. C'est que, sauf à ce qu'on ait de la déflation, mais ce qui n'est vraiment pas notre scénario, aujourd'hui, les perdants avérés de ce qui s'est passé, c'est les investisseurs. En tout cas, tous les investisseurs qui conservent du cash, tous les investisseurs qui en particulier, alors le cash ça peut être très transitoire, c'est pas très grave, mais tous ceux qui investissent en tout cas sur des obligations à moyen ou à long terme d'État rémunérées à zéro, voire rémunérées avec un rendement négatif, je l'ai dit, hein, si l'inflation accélère, ils seront très très perdants, mais même si l'inflation n'accélère pas, si elle reste où elle est aujourd'hui autour de 1,5, bah, être rémunéré à 0 ou moins 0,5 sur 10 ans quand l'inflation est à 1,5, c'est quand même perdre en moyenne 2% par an, c'est donc perdre 20% au final au bout de 10 ans. Et donc voilà, c'est la seule certitude qu'on a, c'est que on a déjà un perdant aujourd'hui, ce sont ces investisseurs qui investissent sur l'obligataire d'État à des taux réels négatifs. On l'a souligné, les taux réels, donc nets de l'inflation, sont à moins 1 ou moins 1,3% sur les marchés. C'est déjà ce qui est coté. Et bien sûr, si l'inflation accélérait, on aurait une réalité bien plus négative que ces anticipations de marché.
Bien. Merci, Mathieu. C'était, je pense, assez dense, mais on va quand même prendre le temps de répondre à quelques questions qui sont liées, et peut-être pour te laisser respirer deux secondes, je vais répondre à l'une ou l'autre d'entre elles, et il y en a deux qui me semblent un petit peu liées, qui concernent le fait que les banques centrales, par leur politique de taux extrêmement bas, finissent finalement par polluer une valorisation rationnelle des actifs. Hein, la question précisément s'exprime en disant l'absence d'indépendance des banques centrales. Je ne sais pas si c'est l'absence d'indépendance des banques centrales, mais enfin, en tout cas, les politiques en ce moment avec les marchés administrés, leurs interventions, n'empêchent-elles pas tout exercice de valorisation fondamentale selon vos méthodes? Et je voudrais rapporter à cette question celle qui concerne ce qu'on appelle les titres value et la sous-performance de ces valeurs par rapport à des entreprises dites plus de qualité ou de croissance, sachant que les premières ont sous-performé de façon assez incroyable depuis effectivement 4 ou 5 ans, et que le phénomène s'est même amplifié ces derniers mois, y compris dans la reprise à la hausse des marchés. C'est vrai que c'est compliqué de comprendre une évaluation fondamentale à partir du moment où on n'a pas un taux de référence de marché qui soit un taux lié à l'équilibre de l'offre et la demande. Et que Mathieu l'a dit, que c'est quantitative easing, mais si les politiques de taux font que les banques centrales gouvernent complètement la courbe des taux et permettent aux États de s'endetter, donc effectivement pour zéro, voire moins que zéro. Et que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand on, comme nous, on est des investisseurs un peu fondamentaux et qu'on perd nos repères? Alors, on essaye de voir le long terme en réalité, et donc, entre autres méthodes, s'il y en a plusieurs, on s'est toujours accroché à, pour ce qui concerne les actions, en tout cas à faire ce qu'on appelle des actualisations de cash flow, donc des modèles de DCF pour parler l'anglais obligatoire, et donc d'actualiser les cash flows, c'est-à-dire les liquidités générées par les entreprises aujourd'hui, de les projeter en fonction de leur croissance et du cycle qu'on anticipe, et puis de les actualiser en valeur d'aujourd'hui à un taux qui est un taux que nous souhaitons pour être rémunérés. Donc c'est un exercice un petit peu, parfois un peu théorique, où il faut faire des hypothèses, et notamment des hypothèses de taux. Et nous, nous normons en réalité ces taux que nous rentrons dans nos actualisations de cash flow. Nous majorons ces taux, évidemment, d'une prime de risque. Mais je dois dire qu'il y a quelques années, nous rentrions des taux de 4,5, qui étaient les taux qu'on avait observés pendant un bon moment et qui correspondaient grosso modo à long terme à 2% d'inflation et 2,5% de croissance, ou 2,5% d'inflation et 2% de croissance. Et qu'on a, on a réduit ce taux, mais on ne peut pas effectivement le réduire à zéro parce que ça serait la négation de toute croissance future. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, et ça, c'est notamment ce qui génère cette surperformance des valeurs qu'on appelle à duration longue, c'est-à-dire effectivement des valeurs peu cycliques à génération de cash flow très régulière et élevée, et qui font que on a une vision très longue, et donc comme une obligation très longue, elles sont beaucoup plus sensibles à la baisse des taux que les obligations courtes. Et c'est justement ce qui est un élément explicatif de cette divergence entre ce qu'on appelle la value et la croissance de façon un peu caricaturale, et de deux types d'entreprises pour lesquelles la vision de la croissance des cash flows n'est pas la même. Alors pour que la value récupère son retard accumulé, il faudrait deux choses. La première, d'abord, c'est qu'effectivement, là, on a une visibilité des dégâts causés par la récession actuelle sur leur profitabilité, et que le marché puisse à nouveau reprogrammer des perspectives de génération de cash flow sur ces actifs value qui sont plus cycliques ou inférieurs aux autres, et se dire que quand même, ça vaut quelque chose, en continuant de les actualiser à des taux peut-être supérieurs que pour les autres catégories d'entreprises, mais tout de même. Donc il faudrait que récupérer de la visibilité, et effectivement sans doute que avec une visibilité sur la croissance et sur l'économie, il y ait un début de normalisation des taux d'intérêt. Ce qui veut dire qu'il est probable que la value peut, pourquoi pas, continuer de sous-performer la croissance. Nous, on essaie d'être rationnel. On vous a dit qu'on mettait des... On est très vigilant, on préfère évidemment les valeurs de qualité et de croissance, mais en même temps, on est toujours vigilant sur la rentabilité qu'on veut, et évidemment, on ne va pas mettre 0% de taux d'actualisation, parce que ça justifierait des valorisations infinies sur un certain nombre d'entreprises. Voilà, donc c'est un exercice, je crois que j'avais dit, qui est assez difficile pour nous dans l'équilibre des portefeuilles, c'est à la fois de continuer d'avoir ce qui a nourri les performances de ces dernières années, des types de grande qualité qui ont continué de surperformer, qui ont certains des... Je prends L'Oréal qui est en progression de 8% depuis le début de l'année, par exemple, pour prendre des titres qui nous sont familiers, Nestlé est stable depuis le début de l'année, voilà, et la Merck allemande est en hausse, voilà, Sanofi est en hausse légère aussi. Donc, voilà, un certain nombre d'entreprises... je ne parle pas de Givaudan en Suisse, qui est en hausse de 7%, voilà, d'entreprises de très grande qualité, assez peu sensibles, encore qu'on va voir sur les semestriels quand même. On va voir quand même que même ces entreprises-là sont touchées par évidemment la récession qu'on a connue au trimestre. Mais clairement, il y aura un moment ou un autre une correction, et clairement, nous devons rester quand même relativement rationnels sur ces entreprises dans l'évaluation qu'on en fait. Voilà, donc c'est un équilibre dynamique qui n'est pas facile à tenir. Alors, il y a peut-être une autre question, Mathieu, qui t'est adressée, qui concerne... bon, tu as un peu répondu à la question, mais l'idée de créer ça fait partie des solutions, hein, soit de créer une structure de défaisance façon bad bank dans laquelle on mettrait un pourcentage de dette publique, soit de monétiser modérément pour booster la croissance de la zone euro. La BCE monétiserait, mais tu as expliqué un peu le schéma, pour redonner de la compétitivité par la baisse de l'euro. Et ça, il y a effectivement ce côté devise qui ne joue pas du tout pour l'instant parce que les politiques sont générales.
Sur créer une bad bank, je pense que ça changerait pas grand-chose là. Alors je ne connais pas hein, malheureusement la référence qui est donnée. Je peux pas comparer. J'ai pas ça en tête. Mais c'est vrai que les bad banks qu'on a connus dernièrement, c'est plutôt des actifs détenus par le secteur privé qu'on met dans un système de déficience et où l'État accepte de récupérer. Mais là, comme on est sur quelque chose qui est l'État, si l'État détient des actifs peu solides de l'État, en fait, je suis pas sûr que ça. Je vois pas le schéma. Alors, il y a peut-être un schéma que je vois pas là, mais honnêtement, je vois pas de schéma qui fonctionne. Et après l'idée de monétiser donc pour booster la croissance via la baisse de l'euro, ce qu'on a dit c'est que l'euro déjà n'est pas particulièrement haut aujourd'hui hein, par rapport au dollar en particulier il est peut-être 15 ou 20% au-dessus de son niveau d'équilibre de moyen terme et ça va pas être facile parce que si l'idée c'est d'arriver à être beaucoup plus expansionniste budgétairement et monétairement par exemple que les États-Unis pour créer un décalage d'impression chez les investisseurs qui auraient une forme de défiance par rapport à l'euro, le challenge est assez élevé puisque les États-Unis, hein, on l'a vu hein, sur les premiers tableaux, sont beaucoup plus agressif que nous. On est déjà très agressif, mais les États-Unis sont d'une agressivité colossale et qu'on aura du mal à avoir parce que eux, c'est quand même un seul pays. C'est une devise, une banque centrale et quand même un seul budget quand même. Je pense qu'on ne pourra pas atteindre une ampleur comparable aux États-Unis pour arriver à créer un mouvement de défiance. Je pense que c'est assez... C'est assez difficile. Là, je pense qu'il faudrait des mesures exceptionnelles pour faire bouger les devises. Les devises ont été incroyablement stables hein, sur cette crise. On a rarement vu une crise aussi violente avec des mouvements des marchés actions aussi violents, des inconnues aussi nombreuses et des devises qui, au final, ont quand même extrêmement peu baissé.
Oui, c'est bien. C'est bien parce que ces politiques sont généralisées, qu'il n'y a pas eu de mouvement de devises fort. C'est clair que si... une des zones avait été seule à mener cette politique, il y aurait eu des mouvements de devises absolument phénoménaux.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a une question intéressante, parce que c'est vrai qu'elle fait partie des questions qu'on se pose, c'est pourquoi un tel niveau de dépenses alors que la demande n'a pas structurellement diminué. C'est un peu une des questions quand on explique qu'on va avoir tout d'un coup... le secteur public qui va injecter autant alors même qu'il n'y a pas de raison que le secteur privé voit son comportement modifié fondamentalement. C'est vrai que on peut poser la question. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est qu'il y a deux temps. Il y a un premier temps où il y a une forme de panique totale où le consommateur a du mal à consommer parce que consommer ça veut dire aller dans un magasin, etc. Et où on peut se dire si je veux qu'il continue à consommer à peu près normalement, il faut que je lui donne plus, parce qu'il faut que je l'incite quand même à aller consommer, parce qu'il a un frein naturel. Mais le problème, c'est que si on fait ça, une fois que le frein naturel est parti, ce qu'on lui a transféré, c'est toujours là, et on n'arrive plus tellement à le justifier. Mais c'est vrai que la question est posée, hein, c'est pourquoi on voit aux États-Unis, non seulement là on a envoyé des chèques hein, assez importants et des allocations chômage assez souvent supérieures aux derniers salaires perçus, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le projet de Sanders et Harris, alors qui a peu de chances d'aboutir, hein, mais leur projet c'est ça donne quand même un ordre de grandeur sur les choses un peu incroyables qu'on est capable de pousser, alors que c'est quand même des personnages politiques importants. C'est l'envoi de 2 000 $ par mois à tout Américain, y compris les enfants, jusqu'à 3 enfants, jusqu'à 3 mois après la fin de la crise. Donc pour caricaturer, une famille, 2 adultes, 3 enfants, on lui enverrait 10 000 $ par mois, comme ça. Même si elle continue à travailler, même si c'est rien passé, on lui envoie comme ça, forfaitairement, 10 000 $ par mois, tous les mois, et on continue 3 mois après la fin de la crise. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, les gouvernements font des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, Et on ne peut pas totalement nier que pour certaines des décisions annoncées, on se demande mais quel est le sens, quelle est l'idée. Amortir des baisses de revenus, c'est une chose. Provoquer une forte hausse des revenus chez certains, est-ce que c'est totalement normal que certains gagnent plus aujourd'hui qu'il y a 6 mois? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça, voilà. Et c'est vrai qu'on a une forme de surenchère de dépenses un peu partout. C'est un peu au gouvernement qui protégera le mieux son économie, qui sera le plus exemplaire face au Covid-19. Voilà, faudra voir ça dans 5 ou 10 ans, comment on réécrit, comment on réinterprète tout ce qui aura été fait. Je pense que sur plein d'aspects, la gestion du confinement, la gestion de la relance, les plans de soutien, il y aura peut-être des lectures très différentes du ressenti qu'on lit dans les journaux aujourd'hui.
Est-ce qu'on prend encore une dernière question, Mathieu ? Oui, pardon. Oui, écoute, il y a une question qui surgit, qui a déjà été évoquée en d'autres occasions, qui est celui des crypto-monnaies, et de dire qu'effectivement, ça rejoint un petit peu quand même les politiques monétaires. C'est est-ce que il ne va pas y avoir à un moment une crise de confiance sur les monnaies, les banques centrales, qui favoriserait le recours aux crypto-monnaies?
Alors ça, c'est une question qui est très très ouverte. Hein. Si on regarde le Bitcoin se tient assez bien. Hein. On est autour de 9 000 quelque chose, pas loin de 10 000 en dollars. Les crypto-monnaies, c'est une question qui est très très compliquée parce que on peut se dire que ça repose totalement sur rien et que tout ça n'a aucun sens et que c'est une forme de grand schéma de type Ponzi. D'autres personnes y voient quelque chose de certes totalement différent et qui étonne, mais qui a peut-être un potentiel et une capacité à exister dans la durée. Et je pense que c'est très très difficile d'être définitif entre les deux. C'est en général, beaucoup de gens ont des convictions assez intimes, donc je rentrerai pas là-dessus. Mais par contre, c'est sûr que toute mesure qui alimente l'idée qu'on ne peut pas faire confiance aux banques centrales pour protéger la valeur de la monnaie et qu'elles sont engagées dans une course folle qui, pour l'instant, ne se paye pas en termes d'inflation, mais qui inexorablement se paiera un jour en termes d'inflation, c'est sûr que la politique, depuis 3-4 mois, forcément participe à alimenter cette idée. C'est forcément un facteur de soutien par rapport à des crypto-monnaies où la quantité de monnaie est totalement fixée à l'avance. Elle croît pendant un certain temps à un rythme qui est prédéterminé. À un moment, ça s'arrête et il n'y a pas de capacité à créer de la monnaie de façon un peu fictive, comme on peut avoir le sentiment que certaines banques centrales sont en train de faire. Donc voilà, ça joue forcément dans le sens des crypto-monnaies. Est-ce que ça suffit à établir que c'est quelque chose qui a durablement du sens et qui aura une existence pérenne dans l'économie et les marchés financiers? J'en suis pas sûr, c'est une question.
C'est aussi ce qui a contribué à la performance de l'or depuis quelques mois, évidemment, hein, puisque c'est un peu le même phénomène sur l'or. Bon, mais écoutez, il est 19h09. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints. Nous restons bien sûr à votre disposition. Le break estival est là, mais le service continue, si je puis dire. Donc, on vous souhaite de très bonnes vacances pour celles et ceux qui en prendront. Et on vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Bonne soirée à tous.